Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour parler des Jeux Olympiques qui battent le plein à travers toute la France, où l'Afrique a déjà remporté ses premières médailles. L'espoir est toujours permis dans les autres disciplines en attendant les épreuves de l'athlétisme. Encore un programme très alléchant qui vous attend, chers auditeurs. Je ne les oublie pas, mes vaillants consultants que je salue d'ailleurs depuis Columbus dans l'Ohio. Amédine Sy, bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Lawal Jean Kosuro est à Porte Nouveau au Bénin. Lawal, bonsoir.
Oui, bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
De Libreville au Gabon, nous avons Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Et puis, depuis la France, on rejoint Amine Birouk, notre envoyé spécial sur les Jeux. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Sporama, c'est parti. Démarré le mercredi dernier, puis lancé officiellement deux jours plus tard sur la scène à travers une cérémonie historique et grandiose, les JO de Paris continuent d'émerveiller le monde du sport et sur les stades. Tout comme dans les eaux, il y a une forte représentation africaine qui s'est mesurée à l'élite mondiale. Amine, et le Maroc en fait partie avec des résultats peu convaincants.
Résultats très négatifs pour l'instant. Le terme peu convaincant est déjà flatteur. Et à quelques exceptions près, les éliminations des Marocains au premier tour n'ont pas été des résultats honorables. Je pourrais peut-être sauver celui de l'escrimeur Hossein Lekourt, battu au premier tour par 15 touches à 13 par un champion polonais, numéro 12 mondial, et médaille de bronze au dernier championnat du monde. Mais à l'exception de ce résultat, il n'y a rien de positif pour l'instant concernant la participation marocaine, il ne faut pas se leurrer. La dernière place du cyclisme dormi lors du contre-la-montre individuel, par exemple, en est la parfaite illustration. L'élimination de Yasmine Mouterki au premier tour du tournoi de boxe et le fidèle reflet peut-être de résultats qui ne vont être réjouissants, et cela mettra plus de pression sur ceux ou celles qui sont supposés être les porte-drapeaux du Maroc lors de cette compétition. Je pense à Sofiane Bakhali ou à Khadija Mardi en particulier. Puis on attend 11 émerveilles de Ramzi Bouhiem qui doit en ce moment disputer le repêchage en surf. Pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est que la participation marocaine est pour l'instant très décevante. Et il va falloir véritablement un déclic dans les prochains jours pour pouvoir aborder la première partie puis la deuxième partie de ces JO avec quelques illusions ou quelques espoirs de médailles.
Voilà, plus ou moins mitigé aussi pour les 4 Sénégalais sur 11 qui ont déjà compéti. Amédine, c'est en canoë slalom que Yves Boutis s'est illustré.
Tout à fait, Élisée. Yves Bourri s'est illustré en canoë et kayak slalom en se qualifiant pour la finale qui s'est déroulée tout à l'heure. Mais le slalomeur sénégalais s'est malheureusement classé à la 12e place malgré une bonne performance, une performance courageuse, devrais-je même dire. Mais il a été handicapé par une pénalité. Donc l'aventure s'arrête pour Bourris qui a raté quand même une médaille de peu. C'est aussi le cas de Ibrahim Diaw en tennis de table, l'analyste de Créteil, qui avait réussi en son entrée en lice en se qualifiant en 32e de finale, mais il a été éliminé par Wong de Hong Kong par 4-3 au terme d'un match intense. Il a été donc éliminé. Pour sa deuxième participation, il a fait mieux qu'en 2021 à Tokyo car il avait été sorti dès le premier tour. Samedi déjà, deux autres Sénégalais ont été éliminés d'entrée. Il s'agit de Oumidiaye en natation et de Ndeye Bintou Diong en escrime. Donc pas de deuxième médaille pour le moment pour le Sénégal Élisée.
Et le premier Béninois à entrer en compétition sur les 5 arts non, Alexis Kadé. Il a fait aussi bonne figure en terminant deuxième de sa série en 100 mètres nage d'eau avec un chrono de 57 secondes 61 centimes. Lawal, pas suffisant pour passer au second tour.
Oui, malheureusement pas suffisant, Élisée. 50 7 secondes 61 centimes, c'est pas c'est vrai qu'il est deuxième de sa série, mais ça ne lui suffira pas pour aller au second tour parce que c'est le 42e temps alors qu'on veut les 16 meilleurs temps. Donc Alexis Padé a fait ce qu'il a pu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait réussi à améliorer son record d'une seconde, c'est déjà important. Le reste, il va continuer pas à travailler et la suite forcément lui donnera raison. Il n'a pas à se décourager, il faut qu'il continue et en continuant, forcément, il va atteindre ses objectifs d'ici 4 ans ou dans d'autres compétitions internationales.
Il faut noter que cette journée a marqué les esprits avec la bonne performance du Sud-Africain Pieter Coetzee en natation, qualifié pour la finale du 100 mètres nage d'eau qui aura lieu tout à l'heure en fin de cette émission. Et justement, le continent a déjà remporté ses premières médailles. Lawal, en rugby à 7, l'Afrique du Sud vainqueur 26-19 de l'Australie s'offre la médaille de bronze.
Le bronze pour l'Afrique du Sud en rugby à 7, c'est le moindre qu'on puisse espérer. L'Afrique du Sud est une terre de rugby et aujourd'hui à 7, s'ils n'ont pas réussi à obtenir l'or et que c'est le bronze qui est la maigre consolation, il faut déjà prendre le bronze et espérer que d'autres disciplines vont offrir à l'Afrique des médailles en or. On espère que les Africains au fond et au demi-fond vont forcément bien s'exprimer parce qu'on les connaît pour avoir la même mise sur ces deux disciplines d'athlétisme, donc on les attend à ce niveau-là. On espère que d'autres disciplines, d'autres équipes vont également faire la gloire de l'Afrique. On se rappelle en foot avec le Cameroun, avec le Nigeria, et on espère que d'autres vont forcément suivre le pas, on l'espère bien. Mais il faut dire que le niveau de la compétition est monté et quand le niveau monte et qu'on ne travaille pas assez, on n'a pas à désespérer. Donc les Africains n'ont qu'à continuer pas à travailler et forcément un beau jour viendra où l'or sera africain.
En escrime, Amine, le Tunisien Fares Fejani et l'Égyptien Mohamed El Sayed ont remporté l'argent et le bronze en sabre et épée individuelle.
C'est tout à l'honneur de ces deux pays qui ont investi énormément dans le potentiel d'une discipline qui n'est pas d'une grande tradition sur notre continent. La Tunisie, depuis Inès Boukri, qui a été sacrée médaillée olympique, a su mettre en avant le talent de ses escrimeurs. Et la preuve, c'est cette belle médaille d'argent du sabreur Fares Fejani. Que dire aussi de l'Égypte qui avait réussi même dans cette catégorie ou dans le tournoi de sabre à placer deux champions entre la 5e et la 6e place. Et la confirmation du potentiel du pays du Nil est arrivée avec Mohamed El Sayed qui a remporté la médaille de bronze lors du tournoi de l'épée. Sans dire long sur ce qu'on pourrait faire, sur ce qu'on pourrait investir en termes de potentiel au niveau de l'escrime. Il y a du talent, il y a de l'adresse, il y a de la vitesse. Il y a de la capacité à bien se défendre, à riposter, à contre-riposter, ce qui fait un peu le charme de ces trois armes, le fleuret, l'épée et le sabre, qui ont été pendant très longtemps l'apanage des Européens, en particulier des Français, des Italiens, des Allemands, des Hongrois. Et aujourd'hui, l'Afrique, et notamment l'Afrique du Nord, est bien placée pour pouvoir avoir des médaillés potentiels aux JO, championnats du monde, dans ces armes.
Des médailles pour les sports individuels, ajoutées aux grandes performances réalisées dans les disciplines collectives, notamment le basketball, où les deux représentants du continent ont bien entamé leur compétition. Amédine, le très attendu Soudan du Sud a battu 90-79 Porto Rico, pendant que les dames du Nigeria sont venues à bout de l'Australie 75-62.
Ah oui, Élisée, mention spéciale à cette jeune équipe du Soudan du Sud qui vient d'entrer dans l'histoire en obtenant sa première victoire olympique. Chapeau à cette jeune nation qui a obtenu son indépendance qu'en 2011. Pourtant, les choses n'avaient pas bien débuté pour les Soudanais qui ont été dominés par les Portoricains lors de la première période. Ils se sont inclinés sur le score de 54-48, soit 6 longueurs de retard. Mais les Soudanais ont sorti le grand jeu lors de la seconde période en s'imposant sur le score de 90 à 79. En dame, le Nigeria a aussi frappé un grand coup en dominant l'Australie sur le score de 75 à 62. Pourtant, sur le papier, l'Australie partait largement avec la faveur des pronostics, mais encore une fois, les Nigérians ont prouvé qu'en sport, tout reste possible. Élisée.
Merci Amédine. Le handball aussi n'est pas loin de ce résultat avec l'Égypte et l'Angola qui ont enregistré chacune une victoire et une défaite après deux journées. Jules, les Pharaons qui se sont inclinés devant le Danemark tombeur de la France avaient battu d'entrée la Hongrie pendant que les Angolaises se sont reprises en infligeant une défaite à l'Espagne 26-21.
Oui Élisée, il ne faut surtout pas cracher sur les résultats de nos représentants, hommes et femmes, dans les disciplines collectives à ce stade de la phase de poule, mais plutôt s'en féliciter, tant ils traduisent les progrès du continent. Après le football où le Maroc et l'Égypte tiennent leur rang, le Sud-Soudan en basket vient d'épingler une équipe de bon niveau, comme Porto Rico. Mais c'est effectivement en handball, où on ne retrouve que de gros bras, que le nivellement par le haut a été le plus complet. L'Égypte, net vainqueur de la Hongrie à l'entame, a fait souffrir cet après-midi le Danemark, récent vainqueur de la France, avant de s'incliner à l'arraché. La palme d'or revient pourtant à la formation féminine d'Angola, qui tutoie désormais les grosses cylindrées mondiales, car sa courte défaite du début ne l'a pas empêché de mettre par la suite l'Espagne à genoux. Tous nos encouragements accompagnent nos vaillants ambassadeurs.
En revanche, début compliqué en volley-ball pour les Kenyans, dominé 3-7 à 0 par les Brésiliennes. Difficile aussi pour l'Égypte chez les hommes, qui va croiser demain l'Italie après son revers inaugural 3-0 devant la Pologne. On vient vers vous, Amine Birouk. En football chez les hommes, le Maroc n'a pas pu enchaîner face à l'Ukraine dans un groupe où tout se jouera à la troisième journée.
Eh oui, il n'a pas pu enchaîner, c'est dommage. Parce que la physionomie du match face à l'Ukraine devait indiquer que sur 100 matchs contre ce même adversaire, le Maroc doit gagner 99 fois. Parce que si le début de la rencontre a été poussif, si l'équipe n'a pas été précise dans ses enchaînements offensifs, contrairement au match de l'Argentine, la défense a peut-être cédé lors de la première mi-temps, mais la deuxième période du match, et notamment entre la 45e et la 70e, ont été d'une domination écrasante de l'équipe du Maroc. Elle a donné le tempo, elle s'est créée des occasions, elle avait des décalages de la percussion, l'égalisation de Rahimi sur pénalty était méritée, et puis, sur cette même action, les Ukrainiens ont perdu un joueur. Le Maroc a joué toute la fin de la rencontre en supériorité numérique. D'ailleurs, le sélectionneur Talak Sektioui a essayé d'innover sur le plan de l'animation de jeu pour essayer de gagner le match. Heureusement que si les cartes dans ce groupe B ont été redistribuées avec les quatre formations qu'il compose à trois points, l'équipe du Maroc a encore son destin en main. Elle a même la possibilité, en raison du règlement, de finir première de son groupe. Ce serait que le Maroc bat l'Irak demain à Nice et, bien évidemment, que l'Argentine ne perde pas face à l'Ukraine. Et le tour est joué. En tout cas, si aujourd'hui le Maroc a des chances de médaille, c'est peut-être à travers le tournoi de football et un peu en athlétisme. Et cette équipe de football a du potentiel, elle a du talent, elle a des joueurs expérimentés comme Hakimi par exemple ou Gardien Mounir. Et sur ce qu'elle a montré face à l'Argentine, sur ce qu'elle a laissé entrevoir en deuxième mi-temps face à l'Ukraine pendant 25 minutes, il y a de la place pour passer.
Rien n'est encore perdu aussi pour la Guinée malgré ces deux défaites. Jules, et pour se qualifier, le Sili Olympique doit battre les États-Unis et espérer au même moment une défaite de la Nouvelle-Zélande opposée à la France.
En fait, Élisée, le plus frustrant dans cette affaire est qu'avec la qualité de jeu développée par l'équipe guinéenne lors de ses deux premières sorties, celle-ci ne devrait pas se retrouver le dos au mur. Tout simplement parce qu'au cours de la première rencontre perdue, contre toute attente face à la Nouvelle-Zélande, les poulains du sélectionneur Ossédi Diawara auraient pu composter les trois points du match au vu de leur supériorité évidente dans l'animation offensive sur l'adversaire, tout juste volontaire et discipliné tactiquement, mais qui a su profiter des passages à vide de la défense du Sili, ainsi que la mansuétude du VAR pour scorer et gagner. Contre la France, lors de sa deuxième sortie, la Guinée a corrigé ses lacunes défensives et copieusement tourné en bourrique les Bleuets avant de céder à la 115e minute sur le seul temps fort de la formation de Thierry Henry. Mais les combinaisons de la dernière journée donnent encore aux Guinéens la possibilité de se sortir du pétrin. Mais pourvu que le virevoltant Aliou Baldé et ses coéquipiers reproduisent la même copie que contre la France, tout en se montrant plus réalistes, mais ils n'ont plus leur destin entre les mains.
Les victoires impératives également pour le Mali après sa défaite 1-0 face au Japon. À Médine, les Aigles U23 doivent battre le Paraguay classé deuxième du groupe.
Ah oui, Élisée, les Aigles du Mali n'ont plus le choix. Comme vous le savez, le Mali ne compte qu'un seul point en deux matchs car les Maliens ont été tenus en échec d'entrée par Israël. Les coéquipiers de Lassine Diarra ont été ensuite surpris par le Japon ce samedi à Bordeaux. Ils se sont inclinés sur le score 2-0. Maintenant, Élisée, les Maliens sont dos au mur. Ils doivent battre le Paraguay classé deuxième après sa victoire sur Israël. Sinon, l'aventure va s'arrêter sur cette équipe malienne. Une équipe talentueuse, une équipe qui doit valoir beaucoup de satisfaction à l'Afrique parce que les Maliens ont déjà fait les preuves lors de la Coupe d'Afrique réservée à la catégorie, je veux parler des U23. Ils avaient brillé et on compte beaucoup d'espoir sur ces Maliens, mais malheureusement, ils ont très mal débuté cette compétition avec un match et une défaite. Maintenant, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent battre le Paraguay ou disparaître Élisée.
Le seul point positif, c'est l'Égypte, deuxième du groupe C, suite à sa victoire 1-0 devant l'Ouzbékistan. Maintenant, Lawal, les Pharaons doivent pouvoir gérer leur dernier match de poule face à l'Espagne.
Non, les Pharaons doivent gérer, je ne crois pas, ils n'ont qu'à jouer leur atout, pourquoi ne pas être premier du groupe? Ils n'ont pas fait de calcul maintenant, à défaut donc de battre les Espagnols qui ont un jeu chatoyant, on le voit bien, et quand on se rappelle un peu la force de l'équipe espagnole, surtout que les seniors sont nouvellement champions d'Europe, donc ça va forcément aiguiser les appétits des moins de 23 ans, et ils vont chercher à vouloir faire comme les seniors, et donc ils vont sortir le grand jeu. Maintenant, si l'Égypte reste timorée, elle va en prendre pour son grade. Donc, les pharaons ont bien intérêt à sortir le grand jeu, eux aussi, à jouer le jeu sans complaisance, sans complexe. Et puis, gérer, pour moi, ce n'est pas l'idéal. L'idéal aurait été d'aller sur le front et de se battre à fond pour réussir à engranger de nouveaux points qui permettraient d'être peut-être la tête du groupe. Et quand on est la tête du groupe, on a beaucoup plus de facilité au second tour. Et je crois que les Égyptiens ont intérêt à tout donner pour ne pas perdre ce match face à l'Espagne.
Au niveau des dames, les deux représentants africaines n'y arrivent toujours pas. Deux revers en deux sorties. Le Nigeria battu 1-0 par l'Espagne. Alors, Jules, les Super Falcons en difficulté doivent battre les Japonaises pour espérer une meilleure troisième place.
Élisée, il faut d'abord dire que bon an, mal an, les Super Falcons du Nigeria, considérés comme la tête de proue de la représentation africaine lors des grandes joutes internationales du football féminin, arrivent toujours à tenir leur rang. Mais pour ces Jeux olympiques, la sélection nigériane est confrontée à un double défi. Il y a d'abord ce tirage au sort qui l'a logé dans cette poule C de la mort, en compagnie du champion du monde en titre, l'Espagne, mais aussi du Brésil et du Japon, des habitués aux places d'honneur en compétition féminine. Il y aura forcément au moins un déçu. L'autre défi est celui de la restructuration d'une sélection qui vient de vivre le départ à la retraite de ses cadres, seul l'inoxydable Oshoala étant encore en service. Il a fallu intégrer la nouvelle vague constituée plus de joueuses de devoir que de génie. Résultat, l'équipe défend bien, tient le ballon, mais a du mal à provoquer le contre-pied et à marquer, ce qui se traduit de plus en plus par des nuls vierges, des courtes victoires ou défaites, comme cela a été le cas lors de la dernière Coupe du Monde ou pendant les éliminatoires pour les JO. Bref, le Nigeria marque peu, et ce n'est pas ce qui peut le favoriser en cas de ballottage avec le Brésil ou le Japon au terme de la troisième journée, dans le groupe C, à moins que la machine ne se débloque, ce que tous ses supporters souhaitent.
En revanche, scénario fou pour la Zambie Amine. Les Zambiennes se sont inclinées devant l'Australie après avoir mené 5-2 à la mi-temps. La qualification pour les quarts devient difficile.
Incroyable, inimaginable, ce sont peut-être deux adjectifs qui pourraient servir pour qualifier ce match entre l'Australie et la Zambie. Les Zambiennes qui avaient perdu lourdement face aux États-Unis sur le score de 3-0, pris le match par le bon bout, elles ont mené au score, elles ont même pris le large, parce qu'à un moment elles menaient 5-2, et puis il y a eu cet effondrement incroyable, inexplicable, qui a permis aux Australiennes de revenir petit à petit à la marque, d'égaliser, puis de prendre l'avantage en toute fin de rencontre. C'est un match qui ne doit plaire à aucun entraîneur, puisque le score parfait, c'est quand les défenses prennent le pas sur les attaques, et les entraîneurs n'aiment jamais prendre de but, mais je pense que le public qui a suivi la rencontre, les téléspectateurs, ont dû se frotter les mains. C'est dommage pour la Zambie qui a encore une petite chance de passer en quart de finale, mais il suffirait de battre l'Allemagne qui a été défaite par les États-Unis sur le score de 4-1. Mais c'est très compliqué. D'ailleurs, l'avenir des sélections africaines engagées dans ces JO est au tracé. Elles devraient quitter la compétition, que ce soit le Nigeria et la Zambie. C'est bien dommage, eu garde aux prestations de ces deux équipes, parce que il faut aussi rappeler que le Nigeria a perdu certes ses deux matchs contre le Brésil et l'Espagne, mais à chaque fois par la plus petite des marges, en ayant eu quelques occasions, avec un peu de réalisme, qu'il aurait fallu d'ailleurs exploiter, justement ces quelques occasions que, par exemple, Aziza Toshuala n'a pas su concrétiser. C'est dommage donc pour les deux représentants du continent, en particulier la Zambie, qui avait l'espace et le talent, le potentiel pour battre l'Australie.
Merci Amine, et on reste avec vous. Comme sur ce match Zambie-Australie a coupé le souffle, du spectacle il y en a dans ces jeux. Alors, vous qui êtes présent en France, comment vivez-vous ces jeux?
Je suis en particulier tournoi de football pour l'instant. C'est plutôt un choix déterminé, délibéré. Je me retrouve dans la région de Lyon, de Saint-Etienne. Je m'apprête demain matin à rejoindre la Côte d'Azur à Nice pour pouvoir poursuivre cette aventure olympique aux côtés des Lions de l'Atlas. C'est vrai que poursuivre ou couvrir ou vivre les Jeux Olympiques, c'est un rêve d'enfant qui se réalise un tout petit peu. Et je pense que n'importe quel journaliste a pour vocation ou pour ambition de couvrir au moins une Coupe du Monde et une édition des Jeux Olympiques. La France est un pays qui s'est mobilisé pour l'événement. On l'a vu à travers la cérémonie d'ouverture, certes controversée. On le voit à travers le nombre de spectateurs qui suivent les différentes compétitions et épreuves. Et on sent que c'est un pays qui a mis beaucoup de cœur pour pouvoir organiser 100 ans après une édition olympique. J'espère qu'elle se poursuivra sans entrave, sans problème, et que cette trêve olympique qui a été décrétée, notamment à travers les services publics, les transports, etc., se poursuivra. En tout cas, nous sommes fiers de vivre cet événement. Et justement de pouvoir faire profiter les auditeurs de la VO Afrique de cette présence à travers un regard différent de celui d'autres confrères et consoeurs qui vivent l'événement de l'extérieur et qui donnent également leur avis, que ce soit sur Sporama ou sur d'autres émissions.
Merci Amine, on vous souhaite bon séjour. Merci aussi à Amédine Sy depuis Columbus dans l'Ohio, Jules Valentin Ngoué à Libreville au Gabon et Lawal Dinko Souroua Port-Nouveau au Bénin. Sporama, c'est fini. L'information sur les jeux, c'est sur notre site internet voafrique.com. À bientôt.